Bon, pour commencer aujourd'hui, j'aimerais qu'on se mette vraiment dans l'ambiance. Le vacarme métallique est juste assourdissant. On est dans les profondeurs de Manhattan, on attend le métro.
Ouais, l'enfer classique de la ligne de métro à New York, quoi.
C'est ça. Et là, la rame surgit de l'obscurité. Mais au lieu de l'acier gris habituel et couvert de tags que les New-Yorkais connaissent par cœur, bah, c'est une explosion de couleurs.
Ah, ça tranche, c'est sûr.
Mais carrément, la rame entière, vraiment d'un bout à l'autre, est recouverte de rouge vif, avec une étoile verte immense et les visages géants des joueurs de l'équipe nationale marocaine de football. C'est une intrusion visuelle hyper spectaculaire dans un espace ultra saturé.
Et c'est fait exprès. L'image est vraiment conçue pour provoquer ce qu'on appelle un arrêt cognitif. Dans une ville où tu es bombardé de milliers de pubs par jour, capter l'attention, c'est plus juste de la com.
C'est de la stratégie militaire presque.
Voilà, c'est une véritable opération tactique.
Eh bien, c'est précisément cette image frappante qui ouvre notre exploration d'aujourd'hui. On se plonge dans le magazine marocain L'ODJ High Week, le numéro 132 de juin 2026. Et la mission de cette plongée documentaire, c'est de décrypter comment un pays affirme sa place dans le monde moderne.
Un programme bien chargé, du coup.
Très chargé. Le cheminement de nos sources est assez vertigineux en fait. On part de ce soft power dans le métro américain pour atterrir dans les labos d'intelligence artificielle en plein désert marocain. Ensuite, on passera par des accords géopolitiques historiques au Moyen-Orient.
Avec pas mal de surprises d'ailleurs.
Exactement.
Et le but ultime, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de comprendre comment ces énormes stratégies macroscopiques, ben, elles finissent par s'écraser sur la réalité du quotidien.
Il point de départ. Donc cette rame new-yorkaise aux couleurs des lions de l'Atlas, c'est vraiment l'incarnation pure du marketing territorial. L'objectif qui est affiché, c'est de promouvoir la Coupe du Monde 2026 et de préparer 2030 que le Maroc co-organise.
Oui, mais ce qui ressort des sources, c'est la tension interne que ça génère au pays. Le débat fait rage sur le coût d'une opération pareille.
En même temps, je comprends tout à fait ce débat, hein. Louer une rame entière à New York ou s'afficher sur Times Square, ça exige des budgets colossaux. C'est l'immobilier publicitaire le plus cher de la planète, quoi.
Absolument.
Et qu'en lisant la source, il y a une analogie qui m'est venue. C'est un peu l'équivalent de s'habiller pour le poste qu'on convoite et non pour celui qu'on a déjà. On projette l'image d'une hyperpuissance de l'événementiel. Mais soyons un peu critiques une seconde.
Vas-y.
Est-ce qu'on nage pas en plein dans les vanity metrics? Les indicateurs de vanité, tu vois. C'est quoi la mécanique économique derrière? Est-ce qu'un touriste américain qui voit cette rame va vraiment justifier le retour sur investissement de millions de dirhams?
C'est une super question. Et en fait, la question des indicateurs de vanité se pose si on s'arrête juste au tourisme à court terme. Sauf que la mécanique du soft power moderne, elle fonctionne sur plusieurs couches.
D'accord.
La première couche, oui, c'est le tourisme. Mais la couche souterraine, enfin celle qui intéresse vraiment les stratèges, c'est la modification du risque perçu par les marchés financiers.
Ah, la finance pure donc.
Voilà. Quand un investisseur potentiel à Wall Street voit un pays africain capable de déployer une campagne de cette ampleur dans sa propre ville, sa perception psychologique change. Le pays n'est plus étiqueté marché émergent risqué.
Il devient un partenaire solide, quoi.
C'est ça, il glisse vers la case partenaire institutionnel stable. C'est une méthode que les Émirats arabes unis ont perfectionnée pendant des décennies. Hein. Le Qatar l'a fait avec le Mondial 2022 et l'Arabie saoudite l'utilise massivement aujourd'hui.
Donc le Maroc calque un peu cette équation.
Exactement. L'équation, c'est visibilité égale crédibilité. Et la crédibilité, bah, ça abaisse les taux d'intérêt sur les marchés internationaux et ça attire les investisseurs étrangers.
C'est fascinant. Donc le sport sert littéralement de cheval de Troie pour l'économie. L'élan qu'ils ont pris avec les performances de l'équipe en 2022 s'est transformé en capital diplomatique direct.
Et sans tirer un seul coup de feu.
Ouais, on change le récit national sans avoir besoin d'un énorme budget militaire.
En fait, le soft power te permet d'imposer un narratif. Et aujourd'hui, l'attention, c'est la ressource la plus rare au monde. S'imposer dans l'espace mental mondial, je suis convaincue que c'est une victoire stratégique énorme.
Bon, cette vitrine à New York, elle claque, elle est brillante. Mais si on tire le fil du magazine, on se rend vite compte que ce vernis du soft power, bah, ça suffit pas à garantir l'indépendance d'un pays.
Ah non, pas du tout.
Parce que l'architecture qui soutient vraiment cette puissance, elle se trouve dans un domaine beaucoup plus austère, la technologie. Et c'est là que l'analyse de la source devient hyper pointue.
Bah oui, parce que la visibilité attire les capitaux, on l'a vu, mais c'est la maîtrise technologique qui garantit la souveraineté. Si t'as pas cette maîtrise, tu fais juste louer ton développement à d'autres puissances, quoi.
Et le contraste géographique dans l'OGI Week est saisissant. On quitte les gratte-ciels de Manhattan pour se retrouver dans les dunes de sable de Merzouga.
Ouais, le fameux Rallye IA Future Lab.
Voilà, 1000 participants, des chercheurs, des développeurs en plein désert. Leur but, forger un, je cite, AI made in Morocco et moderniser l'administration.
C'est ambitieux ?
Oui. Mais il y a un détail en parallèle qui change tout la donne. Le partenariat stratégique entre les forces armées royales et une entreprise qui s'appelle Armatan AI. Ils développent des systèmes de défense aérienne totalement autonomes.
Et là, on passe à un autre niveau. L'intégration de l'IA dans la défense aérienne, c'est une vraie rupture. On parle plus d'un petit logiciel de gestion, là.
Non, c'est des décisions létales, presque.
Voilà, ce sont des algorithmes capables de prendre des décisions de ciblage en quelques millisecondes.
Ouais, mais là, il faut vraiment que je me fasse l'avocat du diable. Parce que quand on lit le reste de cette section tech, on voit les manœuvres de Washington.
Ah, la guerre sino-américaine.
Exactement. Les États-Unis viennent d'ajouter des géants chinois à leur liste noire militaire. On parle d'Alibaba pour le cloud, Baidu pour l'IA et BYD pour les véhicules électriques. Washington appelle ça la fusion civilo-militaire.
Tout à fait.
Et du coup, face à cette guerre froide technologique à visage découvert où ces empires se balancent des milliards, un événement comme Merzouga, enfin je sais pas, ça me donne l'impression de voir quelqu'un construire un joli château de sable pendant que des titans se jettent des astéroïdes sur la figure.
Je vois l'image, mais l'analogie du château de sable sous-estime vraiment la nature asymétrique du code informatique en fait.
Ah ouais ? Ouais ? Comment ça ?
Bah, le but pour le Maroc, c'est pas de rivaliser avec les budgets de la Silicon Valley ou de Shenzhen. On parle de souveraineté technologique de niche. Pour comprendre, prenons cette fusion civilo-militaire qui fait si peur aux Américains. Pourquoi cibler Baidu ou BYD qui font juste des voitures électriques pour les particuliers ?
Bah, c'est ça qui me pose problème. En quoi une voiture électrique de banlieue est une menace militaire qui justifie une liste noire ?
Parce qu'une voiture autonome aujourd'hui, c'est plus juste un véhicule. C'est un aspirateur à données sur roue.
Ah, les capteurs.
Exactement. Elle cartographie les villes au centimètre près, elle enregistre les flux de gens, elle identifie les infrastructures critiques avec ses caméras. Et la loi chinoise dit que l'armée peut exiger l'accès à ces données civiles à tout moment.
Ah oui, d'accord. Le lien direct.
Donc, si tu laisses les géants américains ou chinois monopoliser tes infrastructures numériques, tu leur confies littéralement la carte détaillée et en temps réel de ton pays.
Je saisis complètement la mécanique. En fait, une dépendance technologique devient instantanément une vulnérabilité militaire. Si tu fais rien chez toi, tu signes un chèque en blanc sur ta sécurité.
C'est pour ça que Merzouga et le projet Armatan AI sont vitaux. Refuser de construire sa propre IA, c'est accepter que demain, en cas de crise, une superpuissance puisse juste éteindre ta défense aérienne avec une mise à jour logicielle bloquée depuis l'autre bout du monde.
C'est glaçant, mis comme ça.
Mais c'est la réalité. Faire son IA, même à l'échelle d'un seul pays, c'est garder les clés de sa propre maison.
Cette dynamique, c'est vraiment le nouveau champ de bataille mondiale. Et d'ailleurs, je fais une petite pause nécessaire ici pour notre audience. En analysant ces tensions entre la Chine et les États-Unis, ou le Moyen-Orient qu'on aborde dans un instant, on ne prend absolument aucun parti politique.
C'est important de le préciser.
Oui, notre démarche est strictement de rapporter et d'analyser les mécanismes décrits dans nos sources de manière impartiale. Voilà, la parenthèse est fermée.
Et c'est indispensable, parce que l'analyse géopolitique demande une certaine froideur pour voir les vrais enjeux.
Complètement. Et en parlant d'enjeux, le volet diplomatique de ce magazine, c'est juste digne d'un film. Autant la tech redessine la guerre, autant la diplomatie traditionnelle nous lâche des selles surréalistes. Les sources parlent de la signature du protocole d'Islamabad entre les États-Unis et l'Iran.
Un texte en 14 points, ouais, qui change complètement la donne dans une région vitale.
Mais la mise en scène est lunaire. On a Donald Trump qui signe électroniquement depuis le château de Versailles.
Rien que ça.
De l'autre côté, le président iranien Pezeshkian avec le Pakistan comme médiateur. Et le contenu, réouverture du détroit d'Ormuz, fin du blocus naval américain et un fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars. Mais ce qui m'a fait tiquer, c'est qu'il n'y a pas un centime d'argent public américain là-dedans.
C'est ça, le financement serait potentiellement assuré par le Golfe.
Et pour être honnête, la première image que j'ai eue, c'est celle d'un divorce ultra toxique.
Un divorce ?
Ouais, genre les deux n'en peuvent plus. Et pour calmer le jeu, on demande aux voisins les pays du Golfe de payer la pension alimentaire pour pas que le couple brûle tout l'immeuble. Comment un truc pareil peut marcher en vrai ?
Bah, la métaphore du divorce est excellente en fait. Parce que les pays du Golfe, ils payent pas cette pension par charité, hein. C'est de l'instinct de survie pur et dur.
Pour leur pétrole ?
Voilà. Le détroit d'Ormuz est la veine jugulaire du commerce mondial. Si les tensions bloquent le détroit, l'économie du Golfe s'effondre. Washington refuse de payer pour des raisons de politique intérieure et Téhéran a besoin de cash pour pas exploser socialement.
Donc le Golfe achète la paix.
Ils achètent la sécurité de leur route maritime, oui. C'est une prime d'assurance de 300 milliards pour que le couple toxique arrête de casser des assiettes dans leur salon.
Donc on est bien d'accord, c'est pas du tout un traité de paix idéologique.
Ah mais pas du tout! C'est une trêve armée, elle est monétisée et ultra surveillée. Mais c'est hyper fragile, surtout quand tu regardes les autres acteurs.
Justement, la source souligne qu'Israël l'a vraiment mauvaise, vu que ça ne règle pas la frontière avec le Liban. Le Hezbollah voit ça comme un levier pour faire pression. Mais le détail le plus dingue du magazine, c'est le grand gagnant silencieux de l'histoire, qui n'a même pas signé le papier, la Chine.
Et oui, la stratégie de l'influence indirecte à la chinoise. Pékin ne met pas un sou dans le fond, ne mouille pas sa diplomatie, n'affronte pas la marine américaine.
Rien du tout.
Mais dès que le détroit rouvre, la Chine sécurise instantanément son énergie. Pendant que les Américains et les Iraniens s'épuisent, la Chine fait tourner ses usines tranquillement.
C'est un coup de maître. Mais le contraste est vertigineux quand on y pense. D'un côté, on parle de 300 milliards, de l'autre, d'IA militaire, et tout en haut, on met des affiches dans le métro de New York. Sauf que la dernière partie de l'ODJ E-Week fait très mal. C'est un atterrissage brutal.
Le retour à la réalité.
Toutes ces méga-stratégies, elles percutent le quotidien des gens.
C'est le choc des échelles, en fait. Tu peux briller à l'international, mais la vraie épreuve, c'est de gérer les crises de ton propre tissu social.
Et la compilation de faits divers dans la source est un vrai tableau clinique. On décortique. Pendant qu'on rayonne à Manhattan, dans les rues de Gaza ou de Rabat, il y a une polémique monstre dans les cafés.
Ah oui, l'inflation sur les boissons.
Exactement. Le prix des cafés explose pendant le mondial à cause du monopole des décodeurs beIN Sports. Les gérants répercutent le coût. Donc on a une fierté nationale exportée à prix d'or qui devient un luxe inabordable pour le gars qui veut juste regarder le match au coin de ma rue.
Ça illustre comment les monopoles privatisent un bien commun comme le sport. Le soft power crée l'enthousiasme, mais l'économie vient le monétiser sur le dos du citoyen.
C'est dur. Et ça ne s'arrête pas à l'économie. Il y a la réalité climatique. La source parle d'une vague de chaleur extrême, jusqu'à 45 degrés dans certaines provinces.
C'est étouffant.
Pendant que les serveurs IA tournent dans des salles climatisées à Merzouga, la population subit une météo qui met les infrastructures à genoux. Et puis, un autre coup dur social, la Belgique vient de durcir ses règles de regroupement familial. Il faut 2408 euros net par mois maintenant.
Ça détruit les projets de milliers de familles, ça.
C'est une barrière infranchissable pour beaucoup de Marocains.
Et c'est un point crucial. Ça casse l'illusion du monde sans frontières. Le pays exporte son image, mais les citoyens, eux, se prennent des murs administratifs en Europe. C'est la puissance de l'État d'un côté et l'impuissance individuelle de l'autre.
C'est cette tension, ce grand écart, qui m'amène à la dernière info de notre source. Une initiative qui essaie de faire le pont, la grande enquête nationale sur le handicap.
Ah oui, un sujet fondamental.
7,8 millions de dirhams pour enquêter sur 20 000 ménages. Le but, c'est d'actualiser les données sur plus d'1 700 000 personnes en situation de handicap. Au milieu des IA militaires et des milliards du Golfe, pourquoi cette enquête démographique est si importante ?
Parce que c'est l'essence de la vraie souveraineté, celle de l'intérieur. Tu peux pas construire une nation forte, capable d'absorber les chocs, si une grande partie de ta population n'existe pas dans les chiffres de l'État.
Ils sont invisibles.
Exactement. Investir 7,8 millions pour compter et comprendre les plus vulnérables, c'est de l'intégration pure. Sans données, t'as pas d'école adaptée, pas de rampe d'accès. Le rallye IA, il cherche à maîtriser la donnée pour la défense. Cette enquête, elle maîtrise la donnée pour la cohésion sociale.
La donnée, toujours la donner au centre de tout, que ce soit pour bloquer un drone ou construire une rampe pour fauteuil roulant. D'ailleurs, le magazine se termine sur une brève internationale qui vient appuyer ça de façon terrifiante.
La fuite de données en France.
Ouais. 250 000 documents d'identité français vendus sur le dark web après une cyberattaque.
Ça boucle parfaitement la boucle avec ce qu'on disait sur la fusion civilo-militaire et la cybersécurité.
C'est clair.
C'est plus juste un truc de militaire. Quand un quart de million de personnes voient leurs passeports et factures exposées, c'est leur vie civile qui est en ruine. Usurpation d'identité, prêts bancaires frauduleux, c'est un cauchemar. Développer sa propre IA souveraine comme à Merzouga, ça sert aussi à éviter ce genre de catastrophe pour les citoyens. Tu protèges le serveur, tu protèges le citoyen.
C'est vraiment ça. En fait, notre parcours d'aujourd'hui, il démontre que tout est connecté par des fils invisibles. On a commencé devant la vitrine scintillante de New York, symbole d'un pays qui réclame l'attention mondiale.
Puis on est passé à la souveraineté niche avec l'IA militaire.
Ensuite, on a vu 300 milliards acheter une assurance géopolitique au Moyen-Orient. Et finalement, toutes ces ondes de choc se fracassent sur le prix d'un simple café, sur un thermomètre 45 degrés, et sur le besoin urgent d'intégrer 1 million de citoyens oubliés.
La source nous livre une vraie radiographie d'une époque compliquée. Chaque étage joue aux échecs au niveau mondial, tout en essayant de ne pas faire écrouler sa propre maison.
Et c'est sur cette contradiction constante que je voudrais laisser une pensée en suspens pour ceux qui nous écoutent.
Une petite réflexion pour la fin.
Voilà. Si une nation déploie des trésors d'argent et d'énergie pour projeter son soft power et se forger une armure technologique à l'international, mais que, dans le même temps, les obstacles quotidiens des gens s'accumulent, genre les barrières migratoires, l'inflation sur des petits plaisirs, les urgences climatiques, bah une question se pose.
Je t'écoute.
Pour qui, au bout du compte, cette puissance est-elle vraiment conçue ? Est-ce que le rayonnement de l'État finit vraiment par ruisseler pour améliorer la vie de l'individu ? Ou est-ce que ça sert d'abord le prestige de l'appareil étatique sur la scène internationale ?
C'est la grande question, en effet.
C'est une mécanique à garder en tête la prochaine fois qu'un métro s'illuminera aux couleurs d'un récit lointain. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée. C'était passionnant. À très vite.